Calade, ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Auditeurs et auditrices de Calade ma radio, bonsoir. Bienvenue dans notre émission mensuelle Les couleurs du monde. Ce soir, nous allons apprendre à connaître une institution de Villefranche-sur-Saône qui s'appelle le Centre de prévention et de santé sexuelle. Et nous sommes en compagnie du docteur Fougas.
Bonsoir.
Bonsoir. Et Edouard sera également avec nous puisqu'il a rejoint notre équipe.
Bonsoir.
Et puis bien sûr, avant d'entrer plus dans le vif du sujet de l'émission, c'est le moment de la chronique Nuance du Monde. Et pour aujourd'hui, c'est au tour de Jean-François. Salut Jean-François.
Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 50 ans de la mort de Franco, en fait, et finalement, qu'est-ce qui reste de sa dictature ? Donc pour recontextualiser un petit peu, le 20 novembre 1975, l'Espagne se réveille orpheline. Francisco Franco, le caudillo autoproclamé, chef d'un régime né de la guerre civile et consolidé par 4 décennies de répression, vient de mourir. Depuis donc 50 ans ont passé, et pourtant, les traces de ce long hiver autoritaire n'ont jamais complètement quitté le paysage politique, social et mémoriel de l'Espagne contemporaine. Aujourd'hui, on va revenir sur ce que fut le franquisme, sur son héritage et surtout sur les tensions mémorielles qui secouent l'Espagne de 2025. Car la mort biologique d'un dictateur ne suffit pas à faire mourir son ombre.
Alors peut-être on peut commencer par le commencement et tu peux nous présenter qui était vraiment Franco.
Francisco Franco, né en 1892 en Galicie, et rien ne prédestinait vraiment ce fils d'officier de marine à devenir l'un des plus jeunes généraux d'Europe. Alors c'est la guerre du Rif qui, dans les années 1920, va forger sa réputation et il va imposer sa discipline, sa dureté et son intransigeance. Quand la Seconde République est proclamée en 1931, Franco se tient d'abord loyal. Mais en 1936, face aux tensions sociales, aux réformes laïques et à ce qu'il perçoit comme la menace d'une Espagne qui lui échappe, il rejoint, certes tardivement, mais il rejoint quand même, le coup d'État militaire lancé par d'autres généraux. Le putsch échoue, la guerre civile commence alors. Et c'est dans le chaos de ce conflit fratricide que Franco s'impose comme le leader incontesté du camp national. Il rallie le Maroc, traverse le détroit de Gibraltar, gagne l'Andalousie, puis remonte les pays. Installé à Burgos, il jette les bases de son futur régime. Et le 1er avril 1939, il proclame la victoire. L'Espagne entre dans sa nuit.
Et alors son régime, sur quoi repose-t-il ?
Alors c'est une idéologie très structurée. Nationalisme, catholicisme, anticommunisme. Le Movimiento Nacional est le seul parti autorisé. Et la phalange, inspirée du fascisme italien, devient l'ossature politique du régime. L'armée est, quant à elle, la seule garante de l'ordre. De plus, l'Église est la partenaire essentielle d'un régime qui se pense comme une croisade morale. En effet, le discours officiel oppose deux Espagnes. D'une part, la vraie, supposée la vraie, la catholique, ordonnée, nationale. Et puis l'autre, l'anti-Espagne, accusée d'être communiste, libérale, franc-maçonne et dissolue. Un cliché politique, certes, mais qui justifie toutes les violences.
Justement, ces violences, on en parle souvent. Et quels sont les chiffres qui sont aujourd'hui retenus par les historiens ?
Alors, l'un des apports majeurs de la recherche historique de ces dernières années, c'est d'avoir établi des ordres de grandeur quand même. On en sait un petit peu mieux sur ces victimes. Donc la guerre civile en elle-même, elle fait environ 500 000 morts. Mais ce chiffre n'arrête pas l'hémorragie, car après 1939, la répression continue et elle est systématique. Ainsi, on compte 50 000 exécutions supplémentaires dans les années 40. À cette erreur, il va falloir ajouter 1 million de prisonniers au début des années 1940 et 200 camps de concentration qui vont rester actifs jusqu'en 1947. De plus, il y a une véritable famine dévastatrice qui va être provoquée parce que c'est lié à l'autarcie du régime qui va provoquer 200 000 morts de plus. Alors, c'est pas étonnant de voir les Espagnols fuir leur pays. Ainsi, on a à peu près 500 000 Espagnols qui choisissent l'exil et la majorité ne vont pas revenir au pays. Sur la scène internationale, l'Espagne franquiste se range sans ambiguïté du côté de Hitler et de Mussolini. Conscient que son pays est trop affaibli par la guerre civile, Franco ne va quand même pas aller jusqu'à les rejoindre dans l'axe durant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, le pays va rester au banc de la communauté internationale jusqu'en 1955.
Et du coup, entre un devoir de mémoire et l'oubli de cette dictature, il y a une fracture qui est toujours ouverte dans la société.
Ah ouais, tout à fait, hein, très bien, Edouard. Effectivement, il y a une dictature qui n'est pas seulement qui n'a pas seulement écrasé ses opposants, elle a aussi construit une mémoire officielle très puissante. Alors, avec ça se manifeste par des monuments aux morts qui sont consacrés aux nationalistes tombés dans la guerre civile dans tous les villages. On a aussi des pensions pour les anciens combattants du camp national, et enfin une glorification permanente, vraiment, de ce que les nationalistes appellent les héros de la croisade. À l'inverse, les vaincus ont été condamnés au silence, à la misère et à l'oubli. D'autant plus qu'après la mort de Franco, durant ce qu'on appelle la transition démocratique des années 70 et 80, l'Espagne va choisir la voie du consensus, voire même du non-dit, et elle va tout miser sur la réconciliation. On adopte alors une amnistie générale, on évite tous les procès, et pendant longtemps, on ne va pas toucher aux monuments franquistes. Mais elles, les familles des victimes, elles n'ont jamais cessé de réclamer la vérité, la reconnaissance et la récupération des corps, qui sont souvent toujours enfouis, dans des fosses communes anonymes.
Alors, pourquoi tout change dans les années 2000 ?
Alors effectivement, depuis 15 ans, les gouvernements de gauche ont commencé à s'attaquer à cet héritage. D'abord en 2007, c'est la première loi mémorielle qui provoque le retrait progressif des symboles franquistes. En 2019, on a l'exhumation spectaculaire de Franco, hein, qui est retirée de la basilique du Valle de los Caídos. C'est un mausolée monumental près de Madrid. Et sa dépouille va rejoindre finalement le caveau familial, plus dans l'intimité. En 2022, on a une loi sur la mémoire démocratique qui condamne clairement la dictature et elle affirme cette loi la supériorité de la légitimité démocratique. Enfin, en 2025, cette année, hein, Pedro Sanchez a lancé l'année des 50 ans de liberté pour mettre l'accent sur les luttes antifranquistes, sur les victimes, mais aussi sur l'éducation civique d'une jeunesse parfois tentée par une vision édulcorée du franquisme.
Alors j'imagine que tout le monde ne voit pas cette politique du même œil.
Ouais, on s'en doute. Hein. Le Parti populaire et l'extrême droite représentée par Vox, eux, dénoncent une prétendue réouverture des blessures. Ils affirment que la transition doit rester un modèle de consensus et ils refusent l'idée d'une responsabilité de l'État franquiste envers ses victimes. Alors il faut quand même rappeler que la droite espagnole n'a jamais complètement rompu avec la mémoire du franquisme et c'est ce qui explique en partie la vigueur du débat actuel en Espagne. Pour une partie de l'électorat, Franco fut en effet un stabilisateur, un bâtisseur, presque une figure protectrice. Une vision qui est pourtant en décalage profond avec tout ce que les historiens tentent de montrer dans leurs travaux.
Et 50 ans après, qu'est-ce qu'il reste de Franco ?
C'est peut-être ce qui va vous surprendre le plus, hein, parce que 50 ans après, la persistance d'un imaginaire franquiste est présente, particulièrement chez certains jeunes. Il est ainsi assez courant de les voir assister à des messes commémoratives, à chanter des chants phalangistes dans la rue, à chiner des objets à l'effigie du caudillo vendu sur les marchés, ou encore à choisir Franco comme héros historique pour faire des exposés en cours. Voilà.
On a des explications à cette résurgence ?
Alors, notamment déjà l'ignorance, hein, parce que l'histoire du XXe siècle est finalement assez peu enseignée en Espagne. En outre, les discours familiaux persistent et le parti d'extrême droite, Vox, joue sur la nostalgie d'un ordre supposé perdu. Mais c'est aussi parce que l'Espagne, dans son ensemble, n'a jamais vraiment mis Franco en procès, ni judiciairement, ni symboliquement. Pour conclure cette chronique, on peut dire que 50 ans après la mort du dictateur, l'Espagne démocratique se porte finalement quand même bien. Elle est intégrée à l'Europe, elle est dotée d'institutions solides, vraiment démocratiques, et elle fait partie donc des grandes démocraties occidentales. Mais la mémoire, elle, est toujours inachevée. Le franquisme, ce n'est pas seulement un chapitre d'histoire, c'est une cicatrice qui est encore visible, une bataille de récits, un combat entre l'oubli, la nostalgie et vraiment la volonté de vérité. Et si cette commémoration de 2025 a un sens, c'est celui-ci, hein, rappeler que la démocratie ne va jamais de soi, qu'elle se construit, qu'elle s'apprend, qu'elle se défend et qu'elle se raconte.
Galade. Les couleurs du monde.
Merci Jean-François pour cette chronique et ce rappel important. Alors revenons au sujet de notre émission, hein, le Centre de prévention et de santé sexuelle. On va en parler tout au long de l'émission. On va aussi parler des différents sujets que vous traitez dans ce centre. Donc, dans l'ordre, on va commencer par une présentation de toi, donc le docteur Fougas. Puis, on parlera contraception, IVG et enfin IST. Alors, donc, dans un premier temps, Jean-Léonard, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Eh bien, merci beaucoup. Donc, Jean-Léonard Fougas, je suis médecin généraliste de formation, même si ça fait un peu plus de 2 décennies, toujours dur à dire ça, que j'exerce plus en libéral et que je travaille dans ces structures qu'on appelait avant centres de planification et d'éducation familiale. Je travaille aussi dans les centres d'IVG et donc maintenant ce qu'on appelle donc un centre de santé sexuelle, même si effectivement dans le Rhône on appelle ça centre départemental de santé et d'éducation sexuelle.
D'accord, très bien. Alors du coup, est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'historique, l'histoire de ce centre ?
Alors, les centres de... Donc, anciennement, je disais centres de planification, ça existe. Les décrets, ça, c'est fin des années 60, le temps qu'ils soient appliqués, début des années 70. Avec des... Donc, alors, ce qui est important à retenir, c'est qu'on est un service des conseils départementaux. Mm-hmm. Comme la PMI, Protection maternelle et infantile, ou l'aide sociale à l'enfance.
D'accord.
Et donc, on a une mission qui va tourner autour de ce qu'on appelle la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc, c'est un sujet très, très, très large. Mm-hmm. Et qui va permettre en fait de proposer, alors pas seulement aux adolescents, ça c'est aussi une idée, on a cette idée reçue que c'est réservé qu'aux ados un peu difficiles, non, c'est vraiment ouvert à tout le monde.
D'accord.
Et donc pour leur proposer d'aborder un sujet qui est loin d'être simple, hein, mm-hmm. Qu'on soit ado ou ancien ado, hein, la vie affective et sexuelle reste toujours un peu compliquée, on ne sait pas toujours à qui en parler.
Bien sûr.
Donc voilà, que ce soit un lieu avant tout d'écoute, d'accueil. Et donc, en 2022, on a changé de nom. Alors, c'est un décret national, hein, parce qu'en D'accord. fait, centre de planification, c'était un peu trop proche du planning familial.
Oui, j'allais demander. Donc, est-ce que par rapport au planning familial, en fait, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est dans les mêmes locaux ?
Alors, non. En fait, on est 2 structures différentes, mais on a beaucoup de points communs. On va faire effectivement beaucoup d'actions de prévention, d'information. Mm-hmm. En fait, le planning familial, alors lui, il est beaucoup plus ancien. L'an prochain, il fêtera ses 70 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est une association.
D'accord.
Association qui est devenue rapidement militante, mm-hmm. Donc pour le droit des femmes. Hein, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui. Donc c'est une association qui a beaucoup bousculé notre société, mm-hmm. Qui a des fois aussi soutenu certains hommes et femmes politiques. J'ai notamment Simone Veil en tête, donc, en 1974 pour les droits à l'IVG. Mais il n'y a pas que elle. Là, actuellement, il travaille beaucoup contre les violences faites aux femmes. Hein. Oui. Donc, ce 25 novembre, petit rappel, hein, je crois Tout que c'est 107 fait. Femmes qui sont mortes en France suite à des violences conjugales.
Absolument.
Et si vous rajoutez celles qui se suicident, vous avez une femme qui meurt par jour, en fait, en France. Ça, c'est un chiffre qui est rarement dit. Donc voilà, donc c'est un mouvement militant et qui va faire beaucoup de prévention. Sur le Rhône, il n'y a pas d'association du planning familial. Donc il y a le Centre de planification et d'éducation familiale, donc, qui a changé. Donc, qui s'appelle Centre départemental de santé et d'éducation sexuelle. C'est un petit peu long. Et en fait, le conseil départemental a, on va dire, profité du changement de nom pour réorganiser ce service, pour le dynamiser. Le rendre peut-être plus visible et permettre à tout habitant, à tous les Rhodaniens, en fait, d'y avoir accès. Parce qu'effectivement, c'est des centres peu connus dans l'émission et c'est un petit peu dommage.
Eh bien, tout à fait. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse une première petite pause musicale et puis ensuite, on reprendra de façon un peu plus approfondie vos missions dans ce centre. Donc, pour la première pause musicale, c'est parti.
Disappear.
auditrices et auditeurs de Caladma Radio. Après cette pause musicale, nous reprenons notre émission. Alors, peut-être déjà, est-ce que tu veux bien, Jean-Léonard, nous dire pourquoi tu avais choisi cette chanson ?
Je suis vieux.
Non, c'est pas une bonne raison.
J'aime Mozart aussi et j'étais pas né. Non, j'ai toujours aimé les Rolling Stones. Je ne sais pas pourquoi.
Super.
Voilà, le coup de foudre.
Très, très bon choix.
Il n'y a pas que.
Alors du coup, on va continuer un petit peu cette présentation avec peut-être l'idée de nous parler un peu plus des missions du coup du centre pour lequel tu travailles.
Alors, le centre de santé et d'éducation sexuelle, alors sur le département, on a 9 sites. Hein, on a complètement, je disais, le département a tout réorganisé. Mmh. Vous en avez un à Villefranche, qui est à l'antenne du département, 160 rue Montplaisir. Vous en avez un qui est à Belleville, de place de l'église, à côté de la gendarmerie, mais bon,
d'accord.
Très bon rapport avec le voisinage. on est également sur Tarare, L'Arbrel, Tizy-les-Bourgs, et puis même dans le sud du département, Genasse, Condrieu et Morne.
Ok, très bien.
On a un numéro de téléphone, ça aussi c'était pour permettre qu'on soit plus accessible. Alors c'est facile à retenir, c'est le 09 69 369 369. Voilà.
Impeccable. C'est bien. C'est une petite blague, non?
Non, le numéro, en même temps, voilà, on est dans le 69,
oui,
donc
c'est
ça
vrai.
Paraissait
c'est cohérent.
Logique. En fait, on a trois pôles, trois missions principales. Alors, je vais être très égoïste, je vais commencer par la mission médicale. Mmh. Donc, on a des consultations qui sont assurées soit par des médecins, soit des sages-femmes. Donc, qui sont, j'insiste bien, vraiment ouverts à tout le monde, à tous les âges. Donc, on propose des suivis gynécologiques.
D'accord. Et donc, pas besoin d'autorisation des parents, par exemple, pour des adolescentes mineures ?
Alors, ça, c'est le petit bonus des centres de santé sexuelle, c'est qu'effectivement, on peut venir sans que les parents soient au courant, ou sans que le conjoint soit au courant. En fait, on peut demander l'anonymat, ou on peut aussi avoir des problèmes d'ordre financier. Et là, le département prend en charge.
D'accord.
Et ça représente, on va dire, l'anonymat, un quart de nos consultants.
D'accord. Hein.
Donc, on a aussi beaucoup de jeunes qui viennent avec leurs parents, ou les parents les ont déposés, ou les parents comprennent qu'eux aussi peuvent venir, et on les voit la semaine d'après. Donc, vraiment,
très bien.
Donc, je disais suivi gynécologique avec les fameux frottis. Puis, il n'y a pas un an d'attente. Hein, vous avez rendez-vous dans la semaine.
D'accord.
Tout ce qui touche à la contraception, dépistage des infections sexuellement transmissibles. Donc, on a aussi une population masculine. On a mis en place cette année, en plus, pile poil pour les 50 ans de la mise en place de l'IVG. Donc, c'était le 17 janvier dernier. L'interruption volontaire de grossesse par méthode médicamenteuse.
D'accord.
Donc, ça, c'est la partie médicale. Après,
ça peut se faire donc directement chez vous, en fait.
Ah oui. D'accord. Tout à fait. Après, j'ai d'autres collègues qui sont des conseillères conjugales et familiales qui, elles, voient donc, comme le nom l'indique, des couples où c'est un peu compliqué, voilà, un peu tendu, on va dire.
D'accord.
Ou des familles où là aussi il y a des difficultés. Alors, pas forcément que les parents avec les ados, ça peut être beaucoup plus large.
D'accord.
Des gens qui ont subi des violences physiques, psychologiques, sexuelles. Donc là, vous imaginez bien qu'elles ont besoin d'être accompagnées. On a des fois simplement des gens qui ont des questions. On a des fois des élèves qui ont un exposé en SVT à faire sur les moyens de contraception. Elles les accompagnent aussi, elles peuvent proposer des accompagnements à la parentalité.
Hein. D'accord.
Mais j'insiste bien aussi sur les gens qui ont subi des violences. Donc là, c'est les conseillères conjugales et familiales.
D'accord.
On a aussi la chance d'avoir une assistante sociale. Mmh. Et donc, dans l'accès aux droits, tout ce qui est d'ordre juridique.
Par exemple, on peut aller la voir si on n'est pas certain des démarches qu'on a à faire.
Exactement. Okay. Donc ça, c'est le deuxième pôle. Et puis, on a un troisième pôle de prévention, donc sur la thématique éducation, la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et donc, on va intervenir auprès de tout public. Alors, une grande partie, c'est dans le milieu de l'éducation nationale. Mmh. Donc, tous les niveaux scolaires, c'est assez concentré collège, lycée, privé, public. Et puis, je ne sais pas, peut-être que quand vous étiez au collège, lycée, vous avez pu bénéficier d'un temps pour aborder la sexualité.
Alors oui, moi, c'est une association. Quand moi, j'étais au collège, il me semble.
Il y a pas mal d'intervenants. Il y a beaucoup de les centres de santé sexuelle, puis le planning familial. Après, ça dépend un peu des départements. Et donc, les sujets qu'on aborde sont totalement abordés à l'âge. On ne vient pas en apportant un savoir, on vient répondre à leurs questions.
Tout à fait. Je me souviens, puisque j'ai assisté à ton intervention dans notre lycée l'année dernière, et c'était vraiment... Super. Si des enseignants nous écoutent, des chefs d'établissement, allez-y, invitez le docteur Fougas. Franchement, c'est vraiment exactement ce que les enfants, les adolescents et les adolescentes devraient entendre, je pense.
Alors, c'est gentil, mais mes collègues font aussi un travail.
Alors, je ne les connais pas. Moi, je parle de ce que j'ai entendu.
De mémoire, les adultes avaient appris aussi pas mal de choses.
Donc, on
n'intervient pas qu'auprès des jeunes. On peut intervenir, alors déjà dans le scolaire et dans le non-scolaire, parce que des jeunes, on peut en trouver partout. Mais voilà, dans les maisons de quartier, les centres sociaux, les missions locales, auprès des étudiants. Et on a mis aussi en place des actions de sensibilisation auprès des professionnels. Alors médico-sociaux, mais ça peut être beaucoup plus large, puisqu'en fait, bah, ça reste pour tout le monde, et quel que soit l'âge, un sujet un peu compliqué.
Bien sûr.
Je vois beaucoup d'adultes, moi, qui ne maîtrisent pas vraiment le sujet. Moi, j'apprends des choses tous les jours. Et donc, l'idée, c'est de faire que les adultes aient un peu plus de réponses, justement, pour mieux répondre aux questions qu'ont les jeunes. Et les questions, elles sont nombreuses.
Bien sûr.
Très, très nombreuses. Mmh. Donc voilà comment fonctionne un centre de santé d'éducation sexuelle.
Donc par exemple, des parents qui auraient envie d'aborder des sujets de cet ordre-là avec leur enfant et qui ont un peu de mal à s'y prendre, ils peuvent venir vous voir pour avoir des conseils.
Tout à fait. Hein, effectivement, c'est compliqué de parler à son enfant. En même temps, c'est compliqué à l'enfant d'aller voir son parent. Hein. Il y a une étude là, qui est sortie dernièrement qui montre bien que les parents sont un peu les derniers de la liste. Alors ça reste toujours une moyenne.
Ce qui est cohérent, un adolescent, il n'a pas envie de parler de ça avec ses parents.
Surtout pas. Mais voilà, donc c'est important de se dire, voilà, il y a des structures, il y a nous, certes, mais voilà, il y en a d'autres, mais on va parler là, on va être un peu égoïste, du Centre départemental de santé et d'éducation sexuelle, qui peut proposer, donc je vous dis, un accompagnement à toute personne, quel que soit son âge, en fait.
Ok, bah super. Édouard, tu avais des petites questions
Non, il a déjà répondu à toutes mes questions.
Désolé.
Je vois que les missions sont quand même vastes. Le personnel, vous êtes nombreux sur Villefranche ?
Alors, on est une petite équipe, mais très, très motivée, en fait. Alors, sur Villefranche, c'est une équipe départementale, donc on est 13, en
fait. Vous êtes répartis sur les différents
sites. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un médecin, voilà, j'étais très égoïste, il y a 4 sages-femmes, 4 conseillères conjugales, et une assistante sociale, et 3 gestionnaires. Voilà. Okay. Et donc, on est répartis. Alors, moi, je me balade pas mal sur le département, mais sinon, mes collègues, voilà, à Villefranche, donc vous avez une sage-femme, une conseillère, l'assistante sociale et une gestionnaire.
Eh bien, très bien, merci.
Galade. Les couleurs du monde.
Alors, après cette présentation, on va passer à notre deuxième partie sur la contraception. Du coup, eh bien, est-ce qu'on peut déjà évoquer peut-être, je ne sais pas, les idées reçues sur la contraception ?
Alors là, on va y passer longtemps. Il y a beaucoup d'idées, mais ça fait peur, hein, parce qu'effectivement, derrière la contraception, on parle de sexualité, et parler de sexualité n'est jamais chose aisée. Les idées reçues sur la contraception, je ne sais pas si vous en avez. Non.
Alors, peut-être l'idée que c'est des hormones quand c'est la pilule et que du
c'est
coup,
pas
c'est pas très bon, c'est pas naturel, ça fait grossir.
Alors, c'est pas naturel et ça fait grossir. C'est pas naturel, donc je pense que écouter la radio n'est quelque chose qui n'est pas naturel. Les micros qu'on a devant nous, nos vêtements, nos lunettes, les médicaments qu'on prend en général, hein, rien n'est naturel. Mais je vous dis... En fait, le problème, les critiques qu'on a sur la contraception, c'est globalement, je vais faire le parallèle aussi avec les vaccins. Si vous avez une angine et je vous donne un traitement antibiotique, mais malheureusement, vous faites une allergie, bon, vous êtes tout rouge, mais l'angine est guérie. Que la contraception et le vaccin, potentiellement, quand on vous les donne, vous n'êtes pas malade. Et donc, si vous avez un effet secondaire, puis en France, on aime bien grogner, on est un peu moins content. Donc, on va être beaucoup plus attentif, si j'ose dire, aux effets secondaires qui sont excessivement rares.
D'accord.
Mais bon, pour la personne sur qui c'est tombé, c'est du 100%. Quoi.
Non. Eh bien oui. Et on a des statistiques un peu des effets secondaires, par exemple la pilule ?
Oh mais enfin, moi, j'ai pas les chiffres parce que c'est tellement rare. Après, ça reste un médicament. Hein, donc ça doit être prescrit par une sage-femme, par un médecin, et ça se fait pas en 30 secondes sur un bord de table. Non. Il faut prendre du temps. Il est important de connaître les antécédents de la personne, ses antécédents familiaux, si elle fume. Enfin, c'est une consultation qui ne se fait pas, je vous dis, en 30 secondes. Hein. Et
d'accord.
Souvent, les problèmes qu'il y a eu, c'est des gens qui avaient des gros dossiers médicaux et la prescription de la pilule a été un peu faite au lance-pierre.
D'accord.
Et donc forcément, bah, vous avez des conséquences. Mais si c'est bien prescrit, moi ça m'arrive que ce que je prescris ne fonctionne pas. Que la personne ne le supporte pas, on revient puis on change. Quoi,
hein. Okay.
Mais des grosses complications, c'est excessivement rare. Excessivement rare.
D'accord.
Non, ça reste de très très bons moyens. Mais voilà, ça se prescrit pas n'importe comment, hein, c'est tout.
Et quand une jeune fille, par exemple, vient vous voir pour une première contraception, on l'oriente sur quoi ?
Alors, on va l'orienter vers déjà ce qu'elle souhaite, hein, ce qu'elle a entendu, en bien, en pas bien. Et puis nous, on va voir justement, en fonction de ce que je parlais, des antécédents, si elle fume, etc., ce qu'on peut lui proposer. Alors, des fois, on pourra tout lui proposer. Et puis, des fois, malheureusement, on dira, écoute, dans ta famille, il y a telle chose, toi, tu as telle chose, tu prends tel médicament, tu fumes. La notion du poids aussi est à prendre en compte. Et à ce moment-là, on aura peut-être moins de choix. Après... On peut tout proposer. La pilule, c'est le moyen le plus connu, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'implant contraceptif. Donc, c'est grand comme une allumette, c'est souple comme un Scooby-Doo. Et ça se met, j'insiste bien, sous anesthésie. Ça ne fait pas mal. D'accord. Ou alors, c'est que ça a été mal fait. Donc, à
encore une idée reçue, du coup.
Ah, complètement. Enfin, en même temps, j'ai vu des patientes à qui on l'a posé sans anesthésie.
Ah bon?
Mais bon. Oui, je ne développerai pas. Et donc, ça se met sous la peau. Hein, on le sent après comme un tendon. Et ça, ça fonctionne pendant 3 ans. Il y a le stérilet, qui, je rappelle, n'est pas réservé qu'aux femmes qui ont déjà accouché.
Encore une idée reçue.
Exactement.
Mais il y a des médecins qui refusent. Moi, j'ai une amie qui n'avait pas eu d'enfant, qui n'en voulait pas. Et on a refusé de lui poser un stérilet.
Alors, moi, je pense qu'un des vraiment problèmes en France, et ce n'est pas une critique du milieu médical, c'est un constat, en médecine, on a une heure de cours sur la contraception. Donc, alors après, de temps en temps, on peut avoir un peu plus. Mais globalement, la formation, elle est quand même assez minime. Et donc, être formé à la théorie, aux gestes pratiques, c'est pas suffisant. Un stérilet, moi, quand j'ai débuté, il y a donc quelques années de ça, je me suis aperçu que j'étais pas bon, quoi. Hein, donc, j'ai travaillé un peu le sujet depuis. Mais donc, voilà, le stérilet, on peut le poser à toutes les femmes. Il y a le patch, il y a l'anneau contraceptif. Vous voyez, il y a énormément de choses. Alors, il y a des moyens qui sont remboursés, d'autres pas remboursés, etc. Mais donc là, je vous ai cité les mieux. Le préservatif, les préservatifs, qu'on appelle masculin et féminin, mais qu'on doit maintenant appeler interne et externe.
D'accord.
Bon, après, il y a les méthodes naturel. Bon, là, je suis un peu moins vendeur.
Oui. Et juste tout à l'heure, tu as parlé de la cigarette et des fumeuses. C'est quoi les risques?
Alors, le risque tabac et contraception, c'est le risque de boucher ses artères et ses veines. Voilà, d'accord. Tout simplement. Et quand le sang passe plus, je vous laisse imaginer les dégâts que ça fait, quoi.
D'accord. Alors, pourquoi c'est l'association des deux qui fait ça?
Alors déjà, je rappelle que le tabac est quand même pas bon pour la santé de base.
Non, mais bien sûr.
Et associé avec certaines molécules, effectivement, ça peut avoir un impact. Alors, c'est pas parce que je fume que je vais forcément boucher mes artères. Mais bon, en tout cas, le risque est augmenté.
D'accord.
Et donc, c'est un facteur de risque. Alors bon... Attention, c'est pas parce que je fume, alors je dis pas qu'il faut fumer, mais si voilà, j'ai 16 ans et je fume 5 cigarettes par jour, bon, on va parler du tabac, mais je vais pas contre-indiquer la pilule.
D'accord.
Mais, on va quand même discuter sur le fait qu'elle arrête, ce serait quand même mieux. Mais effectivement, après, j'ai des gens qui fument plus d'un paquet par jour. Et si vous le cumulez avec d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, comme le surpoids, ou alors ça peut être des facteurs familiaux, ou des problèmes de... le fameux cholestérol, etc., là, les risques... C'est pour ça que ça ne s'improvise pas, une prescription.
Oui, bien sûr.
Et donc, je vous dis, quelquefois, je n'ai pas tellement de choix. Et en général, on trouve une solution.
D'accord. Vas-y, Edouard.
Non, c'était pour parler toujours des contraceptifs, notamment la pilule. On a plusieurs générations de pilules. Il y en a qui sont... plus ou moins indiqué, justement
Carrément. Alors, la première génération, elle n'existe plus parce que trop ancienne, a quitté le marché. Donc, vous avez la fameuse deuxième génération qui est celle qui est préconisée, qui est vraiment adaptée. La plupart des pilules, en plus, sont des pilules remboursées. Après, donc, les labos ont sorti ce qu'on appelle les troisièmes, et puis ce qu'on appelle faussement les quatrièmes générations, parce qu'elles sont arrivées un tout petit peu plus tard, mais on pourrait faire les trois bis ou les trois arrivées un peu plus tard.
C'est un peu la même chose,
C'est globalement la même chose. La plupart de ces contraceptifs ne sont pas remboursés.
D'accord.
Et donc, quand vous prescrivez une pilule à une jeune fille de 16 ans, le portefeuille, ça compte. Et les deuxièmes générations sont très très bien. Et les troisièmes, quatrièmes générations n'ont pas vraiment apporté... en plus, les risques même de boucher les artères est un peu plus important, quoi. Donc, c'est pas parce que c'est ancien, je ne dis pas ça parce que je suis vieux, mais que c'est à mettre à la poubelle. Il y a vraiment des pilules comme Optilova, Optidril, Trinordiol, Adépal, Lilou, que sûrement des femmes qui nous écoutent connaissent déjà, sont très très bien et très adaptées, quoi.
D'accord. Okay.
Et si on a, si on est une jeune fille et qu'on veut se faire prescrire une pilule, est-ce que les parents sont forcément au courant?
Alors voilà, donc je m'excuse auprès de tous les parents. Ça fait 25 ans que je mens. Il y a des lieux comme ça, comme les centres de santé sexuelle, qui peuvent justement accueillir ces jeunes gens, donc on peut parler aussi des garçons, mais là on va dire les jeunes filles, pour avoir une contraception. Et donc nous on peut leur délivrer une contraception, elles n'ont pas besoin de passer à la pharmacie, même si effectivement jusqu'à 26 ans on peut obtenir sa contraception si elle est remboursée de base par la sécurité sociale sans enfin directement par la pharmacie, sans rien avancer. Et ce qui fait que les parents ne sont jamais au courant.
Ok. Et du coup, tu nous disais jusqu'à 26 ans, les moyens de contraception sont remboursés. Alors, chez les garçons, il y a quoi qui est remboursé? Parce que la pilule, ça n'existe pas encore.
Alors non, ça n'existe pas.
Bah, ça a existé, mais bon...
Non, ça n'a jamais... Non, c'est un truc où j'entends tout le temps qu'elle va sortir demain. Ouais.
Elle sort demain depuis 10 ans.
Il me semblait, moi, qu'elle avait été testée, mais qu'en fait, c'est comme ces messieurs avaient eu un petit mal de crâne.
Je sens qu'on va se faire
abonder, là. Et du coup, comme ces messieurs avaient eu un petit mal de crâne, on a vite évacué ça en se disant bon.
Je suis d'accord avec vous. Il y a peut-être un petit manque d'objectivité, mais vous savez que les hommes sont des êtres beaucoup plus sensibles et fragiles.
Bien sûr.
Et qui manquent un petit peu d'objectivité. Donc oui, donc pour l'instant pas de pilule pour les hommes. En même temps, est-ce que si l'homme oublie la pilule? C'est madame qui...
Oui, il en payera moins les conséquences.
Donc, ça demande vraiment un gros taille. Mais en tout cas, il faut impliquer les garçons dans la contraception, même féminine, ça, c'est évident. Ouais. Après, il y a les préservatifs pour les garçons. Il n'y a pas grand-chose de plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est accessible gratuitement en pharmacie jusqu'à 26 ans. Mm-hmm. Donc, ça, pour les préservatifs féminins ou masculins. Mais on peut aussi l'obtenir sur ordonnance, donc quel que soit l'âge. Et là aussi, c'est remboursé.
Ok, là c'est le médecin qui prescrit.
C'est le médecin ou la sage-femme.
Voilà. Et le slip chauffant, c'est bien, pas bien
En hiver, j'imagine.
J'ai lu un très bon livre qui s'appelle Contracepté et S.
Ouais, une BD.
C'est la BD que je t'ai prêtée.
Alors, la contraception masculine, elle est en réflexion.
Oui.
C'est compliqué, mais il faut avancer sur le sujet. Donc, en fait, l'objectif du slip chauffant, c'est de justement, comme les testicules sont à l'extérieur du corps, c'est parce que justement, si c'était à l'intérieur du corps, les hommes restent tous stériles parce que donc il fait trop chaud.
Oui.
Donc l'idée, c'est de monter effectivement la température. Alors il faut les porter, c'est 15 heures par jour. C'est assez compliqué et il n'y a pas en fait de slip chauffant officiel encore.
Oui, c'est un peu artisanal.
Il y a un infirmier qui avait mis en place un anneau qui permettait de remonter les testicules dans le bas-ventre, mais le conseil de l'ordre des médecins lui est tombé dessus en disant que c'était un processus médical et donc il n'avait pas le droit.
Il n'a pas le droit.
Donc il y a encore beaucoup de barrières, mais on va y arriver, on va les lever.
Et vous orientez les hommes vers la vasectomie par exemple?
Alors, on a très, très peu de demandes, mais c'est vrai qu'en France, je crois qu'on est à moins d'1% chez les plus de 40 ans, alors qu'en Angleterre, ils doivent être à 30%.
Oui, c'est énorme.
Ouais, non, mais je pense que c'est un état d'esprit, c'est peut-être notre côté un peu latin. Si vous abordez régulièrement la question de la sexualité, la question de la contraception à tout âge, en fait, ça amène une réflexion chez les garçons, quoi. Ils se sentent plus impliqués. Si vous ne les mettez pas dedans, forcément, ils laissent tomber le sujet. Et puis, dès qu'on leur propose d'utiliser un bistouri pour toucher à une partie très intime de leur corps, en général, la salle d'attente se vide à grande vitesse. Hein. Mais voilà, c'est pour ça que c'est de la prévention, c'est un travail long cours.
Tout à fait. Mais c'est pour ça que je trouvais important d'en dire quelques mots. Alors, merci. On va passer sur une deuxième pause musicale.
Dream on me at night. Dream of me at night.
auditrices et auditeurs de Caladma Radio. Nous revoilà après cette deuxième pause musicale. Et Edouard, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette chanson et de quoi s'agit-il d'ailleurs comme chanson ?
Ça s'appelle For Your Love, des Yardbirds.
Yes.
Et comme on parle de santé sexuelle, ben, l'amour
bah oui,
est okay. au centre de notre sujet.
Eh ben, très bien. Parfait, merci Edouard. Alors on va passer à la troisième partie, on va parler IVG. Qu'est-ce que ça veut dire IVG ?
Interruption volontaire de grossesse, également appelée avortement.
D'accord. Alors, est-ce que un petit rappel historique, comment en France en tout cas, comment on en est arrivé là, le droit, aujourd'hui, hein, toutes les femmes ont droit de pratiquer un IVG ?
Alors,
enfin, une IVG,
une IVG
pardon.
Oui. Donc, bah, donc les débats ont lieu en 1974 et... Mm-hmm. Donc c'est voté un 29 ou 28 décembre 74 et en fait voilà, la loi passe le 17 janvier 75 donc avec Simone Veil à qui on peut dire merci. Mmh. Bon alors après voilà, je peux pas vous faire tout l'historique parce
non,
que là il y aurait
sûr.
Beaucoup de choses à dire, mais l'an dernier si je dis pas de bêtises, l'IVG est devenu un droit dans notre
Constitution.
Constitution, ouais. Excuse-moi, j'oubliais le mot.
Très bien.
Donc ça c'est ouais. parce que c'est effectivement c'est quelque chose qu'il faut
préserver,
qu'il faut
protéger.
Préserver, ouais. voilà. Mm-hmm. C'est vraiment, je me suis baladé dans quelques autres pays et on voit quand même la différence dans les pays où les femmes n'ont pas les mêmes droits, accès à la contraception, à l'IVG. Et enfin, moi, je trouve que c'est pas normal, quoi. Et surtout quand c'est décidé par des hommes qui, à mon avis, on n'a pas grand-chose à dire sur le sujet.
Ouais, tout à fait.
Et en fait, vous avez deux méthodes dans l'interruption volontaire de grossesse.
D'accord.
Donc, vous avez la méthode dite instrumentale. Alors, en fait, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Donc, en France, on peut interrompre la grossesse jusqu'à ce qu'on appelle 16 semaines dites d'aménorrhée, d'absence de règles,
oui.
Ce qui veut dire également 14 semaines de grossesse, donc à peu près 3 mois et demi de grossesse.
Okay.
Et donc, la méthode donc, instrumentale dont je parlais tout à l'heure, donc ça, on la commence à peu près vers 7 semaines d'aménorrhée.
D'accord.
Et donc, on la propose jusqu'à 16 semaines. Donc là, elle se fait à l'hôpital, sous anesthésie locale ou générale, en fonction de ce que proposent les centres hospitaliers. Et sinon, vous avez la méthode dite médicamenteuse, donc qui se fait un peu avant. Donc, elle se fait, elle, jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée.
D'accord.
Et donc, elle peut être faite soit à l'hôpital, soit à domicile. Donc, ça,
d'accord.
c'est celle-là que le centre de santé sexuelle propose.
Okay.
Et donc, en fait, on crée artificiellement une fausse couche.
D'accord.
Alors, bien sûr, il y a un accompagnement important, sur le plan psychologique, bien sûr. On propose des entretiens avec les conseillères conjugales si elles, les femmes couplent, parce que, voilà... Même si c'est prioritaire pour les femmes, mais les hommes ont le droit aussi de pouvoir s'exprimer.
D'accord.
Même si le choix final est toujours pris par la femme.
Évidemment,
ça, c'est
puisque c'est son corps, là, je crois qu'il n'y a pas de discussion sur le sujet.
Exactement, quel que soit son âge.
D'accord.
Hein, donc les parents n'ont rien à dire non plus.
Une mineure, elle peut venir et sans ses parents ?
Ah, tout à fait. D'ailleurs, elle peut faire aussi l'IVG anonymement.
D'accord.
Il faudra juste qu'elle soit accompagnée d'un adulte. Donc ça peut être... la grande sœur, la tante, enfin, qui vous voulez,
d'accord.
qui n'a aucun pouvoir décisionnel. Hein, qui n'est, que,
c'est pas forcément quelqu'un de la famille, si non, c'est
non.
un ami ou une amie majeure.
Quelqu'un
c'est,
de confiance.
C'est... D'accord.
Hein, voilà. Et donc, eh bien, là aussi, on mentira aux parents, mais je peux vous rassurer les parents, on fera tout pour que ça se passe très très bien. Et moi, en 25 ans, je n'ai jamais vu une complication.
Hein.
D'ailleurs, souvent, la visite de contrôle, je vois beaucoup de mineurs qui ont fait l'IVG anonymement qui viennent avec leurs parents.
D'accord. Hein, donc, voilà. en fait, entre-temps, elles en ont pas.
Bah parce qu'elles ont besoin d'en parler à des gens de confiance.
Bah, bien sûr.
Ah, donc, voilà, donc ça c'est plutôt même bien dans les liens familiaux.
Bien sûr.
Même si bon, les parents sont un petit peu perdus de tout ça. Et donc cette méthode médicamenteuse, voilà, on accompagne également avec des médicaments. Alors c'est pas du space-fond, hein, bien sûr. Hein, des vrais médicaments qui agissent contre les douleurs pour que les choses se passent dans les meilleures conditions.
D'accord. Alors, oui, après... parce que c'est quand même un peu violent pour le corps, j'imagine.
Oui. C'est pas une partie de plaisir, effectivement. Alors déjà, le choix n'est pas simple. Et même quand il est clair, ce n'est jamais un choix simple.
Il y a un délai également
de réflexion. Alors, il y avait 7 jours de réflexion à partir de la première fois où vous rencontriez un médecin. Mais ça a été annulé en 2017, sauf erreur de ma part.
D'accord.
Ouais, ce qui est énorme, parce que ça peut faire sauter...
Alors, ça pouvait faire sauter, effectivement, le choix de la méthode.
D'accord.
Là, on laisse le choix aux femmes. Voilà. Des fois, moi, je vois une personne, j'ai n'importe quoi, à 9h, à 9h30, on commence la méthode.
D'accord.
Et puis, des fois, elle préfère, je sais pas, rappeler son mari, et puis on la voit l'après-midi ou la semaine d'après.
D'accord.
On laisse le choix aux gens. Ils sont, alors j'allais dire, majeurs et vaccinés, bon pas tous, mais en tout cas assez grands pour poser ce choix, et c'est eux qui décident. Nous, on est là pour les accompagner sur le plan psychologique et sur le plan physique.
D'accord.
Et ça se passe très bien, hein, une méthode médicamenteuse, on a plus de 98% de réussite, donc les échecs, c'est quand en fait le col de l'utérus s'est refermé à la suite un peu trop vite, et dans l'utérus, il y a des, ce qu'on a, donc, en fait la grossesse est évacuée, mais il y a encore des petites membranes, des caillots.
D'accord.
Mais souvent, en redonnant des médicaments, ça suffit. Exceptionnellement, on l'adresse à l'hôpital.
D'accord.
On a dû adresser une personne, nous, cette année, à l'hôpital. Donc,
d'accord.
C'est vraiment rien.
C'est vraiment très rare.
Oui, non, c'est vraiment... Ça se passe bien. Hein. Mais pour ça, il faut que ce soit des lieux d'écoute et d'accueil. Hein, puisque
tout à fait.
Aucune femme ne vient nous voir par plaisir. Mais bah, l'objectif, c'est qu'elle reparte, quoi qu'il arrive, avec le sourire.
Alors, on parle un peu de chiffres. C'est quoi l'âge moyen des personnes qui viennent pour demander une IVG chez vous?
Alors, bah tiens, à votre avis, ce serait quoi? Jeune, c'est 27
je pense
ans et demi.
C'est plus vieux.
C'est 27 ans et demi.
27 ans et demi.
Ça correspond à l'âge de la première grossesse chez les femmes?
Oui, c'est ça, c'est autour de 28-30 ans, donc on est vraiment quelque chose de cohérent. Le pourcentage de mineurs, hein, je ne sais pas si vous avez une idée sur 100 femmes qui interrompent leur grossesse, à votre avis, ce serait combien?
Peut-être 10%.
Alors, c'est deux fois moins. On est autour
de
5%.
5% okay.
de
mineurs.
On a une idée reçue, hein, qu'on a l'impression des fois que c'est même 30, 40, 50%. Non, non, nos jeunes sont sérieux. Alors déjà, il faut savoir que l'âge médian du premier rapport sexuel en France est de 18 ans.
D'accord.
Hein, il était 17 ans, 17 ans et demi il y a 25 ans. Alors, tout le monde dit que ça a baissé. Eh ben non, il augmente. En même temps, beaucoup de gens passent leur vie sur les écrans. Donc,
Ils se voient moins.
En attendant,
ils font pas d'enfants.
Et c'est pareil pour les adultes. Hein, c'est peut-être même pire. et puis, ils sont beaucoup plus sérieux que nous, avec notamment l'utilisation du préservatif. Alors, nous, c'était les adultes, hein, j'entendais bien. Donc voilà. Et la probabilité de faire une IVG dans sa vie, elle est de 33%.
Ah ouais, quand même.
Ouais. Ben, en fait, hein, j'ose pas vous poser la question, mais globalement, tous les adultes que je croise, quand je leur demande « est-ce que vous n'avez jamais pris de risque sur le plan sexuel ?», personne me dit... tout le monde.
Oui,
hein.
À moins d'avoir été abstinent.
Oui, c'est ça. Hein, on va dire, l'amour rend aveugle et des fois pas très malin.
C'est vrai.
Donc ça peut arriver à tout le monde. Un oubli de pilule, prendre un comprimé tous les jours, c'est compliqué. Un préservatif qui craque, même si c'est rare, voilà, ça peut arriver. Ou des fois, on a été... en acheter et puis on a oublié de les sortir de l'emballage. Voilà, donc les raisons elles sont multiples et variées et donc ça peut toucher tout le monde. Donc globalement, une femme sur trois qu'on croise dans la rue et voilà, ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. Enfin, c'est pour ça que les gens qui jugent les gens qui ont fait des IVG, je n'en ai jamais compris. Pour la petite anecdote, ça m'est arrivé de voir des gens qui militaient dans des mouvements anti-IVG venir nous voir.
D'accord.
Voilà, mais je referme ma parenthèse.
Mais est-ce que je me trompe, mais les gens qui jugent, c'est peut-être plus les hommes qui se sentent dépossédés de tout ça.
Eh ben non, j'ai tout vu. Bon, après, il y a des fois des convictions culturelles, religieuses qui viennent s'en mêler. Après, c'est un choix.
Bien sûr,
une obligation, chacun est libre de.
Tout à fait.
Voilà. Hein. Mais en tout cas, je suis fier d'habiter dans un pays où c'est légal et où il y a des stands, qu'ils soient hospitaliers ou gérés par des conseils départementaux, voire des associations, qui accueillent ces femmes, ces couples, dans un moment qui est loin d'être facile. Quoi.
Ah, tout à fait.
On peut dire un mot, peut-être, des fois, sur des pratiques qui sont un peu limites concernant les IVG, des médecins qui feraient écouter le cœur du bébé, par exemple.
Bon, après,
il y a toujours.
Dans toute profession, vous avez quelques brebis galeuses. Hein, alors, elles restent heureusement minoritaires. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas compris. Enfin, moi, c'est comme ça que je perçois. Effectivement, alors nous, le département a investi dans des appareils échographiques. Hein. Je ne sais même pas où est le bouton volume. déjà, on ne montre pas l'image. Hein, sauf si les gens veulent voir à ce moment-là. Voilà, mais on leur demande vraiment s'ils veulent voir. Mais effectivement, faire coûter l'activité du cœur, pour moi, c'est une hérésie. Si on a besoin, si on a un doute, effectivement, sur un début de fausse couche, quelque chose comme ça, bon, en fait, on voit très bien, vous avez quelque chose qui bouge à l'écran, on n'a pas besoin de son, si vous voulez.
Non,
là on peut être maltraitant, mais on a vu des professeurs maltraitants, on a vu des maçons non compétents. Enfin, voilà, il y a toujours une minorité qui peut faire beaucoup de mal, mais la plupart du temps, enfin, dans l'immense majorité des cas, heureusement, la prise en charge est de qualité. Oui, heureusement.
Et je reviens sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, si la patiente arrive à 9h, à 9h30, on peut prendre le cachet et ça peut se terminer dans la journée.
Alors, non, pas vraiment. En fait, il y a deux étapes dans la méthode médicamenteuse. Il y a un premier médicament, alors qui est très important, puisque d'ailleurs, on fait signer un papier aux femmes, comme quoi elles ont vraiment bien compris, qui va en fait décoller l'œuf et donc commencer à arrêter la grossesse. Et en fait, deux jours plus tard, en moyenne, il y a d'autres médicaments qu'elle prendra soit là. On va prendre l'exemple de la méthode médicamenteuse à domicile, donc deux jours plus tard chez elle, donc un autre médicament qui va provoquer des contractions et comme l'œuf est décollé, en fait, permettre l'expulsion.
Okay.
Alors, c'est ça qui peut être à l'origine des douleurs et puis donc qui peut provoquer des saignements. Alors, qui peuvent être des fois comme un bon début de règle, voire des fois un peu plus important, mais des fois ça peut être moindre, ça peut des fois des saignements très très faibles. Hein, on reste dans l'humain, voilà, vous avez un peu tous les cas de figure.
Okay. D'accord.
Et ça se passe vraiment bien. Enfin, je veux dire, les femmes le sentent venir ou c'est
Oui. Alors, elles doivent jamais être seules chez elles. Hein, okay. Ça, c'est une obligation. Mais pour être honnête, hein, moi, la phrase que j'ai le plus souvent entendue en visite de contrôle et ma première IVG, donc je l'ai fait en août 2000, donc j'ai un petit peu d'expérience là-dessus. La phrase, c'est je vais très bien.
Okay.
Les femmes qui vont pas bien après une IVG sont souvent des femmes qui n'allaient pas bien avant, donc ça n'a pas aidé, ouais. Ou des femmes qui l'ont fait sous la contrainte. Alors, je rappelle que c'est totalement interdit. Mais bon, voilà, on peut pas. Moi, j'ai vu malheureusement des femmes qui venaient, on voyait qu'il y avait une pression des parents, du conjoint, mais elles signaient, elles disaient oui. Donc, la femme qui me dit non, moi, je ne fais rien. Ouais. Mais bon. Donc voilà, mais la plupart du temps, au contraire, voilà, les femmes ont géré quelque chose qui était loin d'être simple. Et donc, au niveau de l'estime de soi, eh bien, en fait, c'est un plus indéniable. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire des IVG, on est bien d'accord. Mais en fait, la plupart des femmes, quand elles sont bien accompagnées, ça se passe bien.
Très bien, merci.
Galade. Les couleurs du monde.
Alors, on va passer à la dernière partie de notre émission, à savoir les IST. Oui. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ?
C'est pas MST ?
Ah, bonne question. Donc, anciennement MST, donc maladie sexuellement transmissible, on est passé, peut-être 10-15 ans, honnêtement, j'en sais rien, aux infections sexuellement transmissibles. On parle de la même chose, sauf que dans le terme de malade, en fait, vous avez des symptômes, j'ai de la fièvre, j'ai des boutons, ça démange, etc. Alors qu'infecté, on n'a potentiellement rien. Vous êtes quand même porteur d'un germe, et donc vous êtes aussi potentiellement contaminant.
Ah oui, d'accord.
Et c'est ça. Et le germe, il ne reste pas inactif. Et il peut évoluer pendant des mois, des années. Et puis, 10 ans plus tard, vous avez un gros, gros problème de santé. Et là, les antibiotiques, ils ne servent plus à grand-chose.
Okay. Et donc c'est pour IST, ça qu'on est passé... c'est le terme générique.
C'est ça.
Et à l'intérieur, il y a les MST.
Non, vraiment, on ne parle plus de MST.
Ah,
ça, c'est vraiment de l'ancien terme.
Okay.
Et à l'intérieur des IST, on va trouver... Alors, bon, une des plus connues, paradoxalement, oui et non, le sida.
Oui.
Mais peut-être pour des gens de notre génération, oui. Mais dernièrement, j'étais avec des collégiens, ils en avaient entendu parler, mais alors qu'est-ce que c'était ?
Ah oui ?
Ah oui, oui.
Ah oui, alors que nous, on entendait énormément parler.
C'était les années 80-90. Hein.
Oui, tout à fait.
Donc c'était, pour un collégien maintenant, c'était à l'époque des dinosaures, vous savez.
Mais oui.
D'où l'importance de faire de la prévention et de répéter les choses, parce que c'est toujours 3 millions de gens qui meurent sur la planète.
Bien sûr.
Donc voilà, donc le sida ou HIV, enfin, le sida étant la maladie et le HIV, donc le virus, une qui commence vraiment à être connue depuis quelques années, c'est le chlamydia.
Oui.
Alors le chlamydia...
C'est joli comme nom.
Oui, c'est joli. Hein. Alors c'est un peu trop long pour
le...
une fleur.
Sauf que c'est la première cause de stérilité en France.
D'accord.
Voilà, autour de 20 ans, on estime qu'il y a 20% des jeunes qui en sont porteurs sans le savoir.
D'accord.
Tu peux répéter ?
Un jeune sur 5 au lycée, par exemple, est porteur du chlamydia sans le savoir.
Super.
Voilà. D'accord.
Alors que le dépistage, c'est tout bête, mais vraiment tout bête. Hein. Les garçons, ils font un prélèvement urinaire. Mm-hmm. Les filles, c'est ce qu'on appelle un auto-prélèvement. Donc, on leur donne un coton-tige et puis elles font un prélèvement dans leur vagin, mais toutes seules.
D'accord.
Et on a le résultat en quelques jours et ça se traite avec quelques antibiotiques.
Ok. Et ça s'attrape
rapports sexuels non protégés, celui-là. Sauf que comme il évolue vraiment à très, très, très bas bruit,
oui.
Et bien voilà, une dizaine d'années plus tard, de 20 ans, on passait une trentaine d'années, l'âge où globalement les Français font des enfants, et puis là, la personne s'aperçoit qu'elle est stérile.
Donc il n'y a pas de symptômes.
Alors il peut y en avoir, mais c'est une maladie qui est assez traître. Hein. C'est des vicieuses, hein, les infections sexuellement transmissibles. Elles sont souvent cachées, mais elles évoluent quand même, elles travaillent derrière. Quoi. Ah,
okay. Et du coup, tu disais donc avec des médicaments, ça se traite très facilement, mais il faut le faire tout de suite. Voilà.
C'est ça, pris tôt. À 10 ans, les antibiotiques, ils ne servent plus à rien. Hein.
C'est quoi le délai pour que ça soit efficace ?
Oh, mais là, si c'est fait en quelques semaines, quelques mois, même si c'était il y a 2-3 ans, on dit oh là là, tiens, je me souviens plus, une soirée un peu arrosée.
Ouais.
Voilà, il faut que les gens aillent faire un dépistage.
Ouais.
Voilà, comme on disait tout à l'heure, tout le monde dans sa vie peut prendre des risques ou prendra ou a pris des risques. Et à un moment donné, c'est se dire, j'ai un peu fait n'importe quoi. Maintenant, je me pose 2 minutes, je réfléchis et je consulte, je vais faire un dépistage, sachant que voilà, pourquoi faire un dépistage ? Je vais bien. Justement, c'est peut-être caché. Et des lieux pour faire des dépistages, vous en avez plein.
Ouais.
Donc, il y a le Centre départemental de santé et d'éducation sexuelle, je fais un peu ma pub. Vous avez à l'hôpital de Villefranche, et ils ont une antenne, une fois toutes les semaines, à Tarare, j'ai un trou de mémoire, ce qu'on appelle le CEGID. Oui. Alors attention, c'est un acronyme un peu compliqué. Centre gratuit de diagnostic, d'information, diagnostic et dépistage des infections sexuellement transmissibles.
D'accord.
Et je voulais réduire un petit peu. Donc là, donc à l'hôpital de Villefranche. Et là aussi, pour toute personne, de manière anonyme, gratuite. Et là, ils font les dépistages et ils traitent. Ils peuvent même traiter aussi les pathologies un peu lourdes comme le HIV ou l'hépatite.
D'accord.
Nous, dans les centres de santé sexuelle, on va traiter, nous, les... entre guillemets, les petites IST, voilà, les hépatites et HIV, là, on passe la main. Okay. Vous pouvez aller aussi chercher votre médecin traitant. Alors, l'anonymat, ce n'est pas toujours facile. Mais il y a aussi les laboratoires, n'importe quel laboratoire en France, maintenant, sans ordonnance, vous pouvez y aller. Et ils dépistent 5 IST.
D'accord.
Donc, oui, il y a quand même un panel en France assez large qui permet à des gens qui, peut-être, n'iraient pas à l'hôpital ou qui iraient plutôt à droite, à gauche. En tout cas, il y a plein de possibilités, où qu'on soit. Hein, même les gens qui disent « oui, moi, je suis en zone très rurale », il y a quand même un laboratoire.
Okay. Ouais, qui permet peut, de qui le peut. Faire.
Et une fois qu'on sait, au moins voilà, on traite ou au moins la personne se protège. Quoi. Mais,
Et concrètement, si on a un rapport non protégé, il faut assez rapidement aller faire
Oui, surtout si en plus le ou la partenaire, on ne la connaît pas très bien, voire pas du tout. Mm-hmm. Là, c'est vraiment prendre un gros risque. Moi, ce que je dis toujours, d'ailleurs, quand je fais des actions de prévention, je dis « quelle est la première chose qu'on fait en montant dans une voiture ?» On met sa ceinture de sécurité. Et voilà, et ça part. Alors, on peut faire de la voiture sans ceinture de sécurité, mais c'est un peu idiot. Bon, en sexualité, c'est pareil. Il faut être systématique, quel que soit son âge. Les personnes de plus de 50-60 ans, les IST, c'est loin d'être anodin. On n'y pense pas toujours. On pense toujours qu'aux jeunes.
Pour se protéger des IST, à part le préservatif, c'est le préservatif, il n'y a que ça.
Il n'y a que ça. Et il doit être, alors là, j'insiste bien, systématique, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et aussi, j'insiste bien, dès le début. Oui. On a des gens, ils disent, on ne comprend pas, on en met toujours. Puis quand vous creusez un peu, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un début de rapport avec pénétration sans préservatif.
Oui.
Et puis après, on arrête un moment, on met le préservatif. Oui, mais entre-temps, il y a eu quand même contamination. Non, il faut être là-dessus très sérieux. Et ça ne change rien du tout à la relation.
Évidemment. Eh bien, merci beaucoup. On va pouvoir conclure cette émission. Donc, merci de nous avoir présenté ce centre. Alors, on rappelle que toutes les informations, on va les mettre dans le podcast de l'émission. Et donc, vous pourrez les retrouver très facilement et aller consulter si besoin. Merci encore.
Merci à vous.
Merci, docteur.
Et merci à nos comparses, donc Edouard et Jean-François.
Calade, les couleurs du monde.
Histoire,
pensée,
culture. De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.